Chapitre 13. Au milieu de ces atermoiements et de ces absurdités plus ou moins évidentes, M. Lafade venait souvent au Bourdon et, avec son fin sourire, sans parler directement, me laissait entrevoir sa pensée. Un jour que, me reposant chez lui, je disais de façon générale que les situations ridicules ou embrouillées se dénoueraient avec facilité si on savait parler à temps, il me répondit « Parfois, ce n'est pas aisé, madame, et le doigté ne suffit pas toujours. Mille petits riens nous attachent dans notre immobilité, les caractères se mettent de la partie, et dans la crainte de blesser, d'envenimer, on s'embourbe si bien qu'on ne peut plus ni reculer ni avancer. À mon avis, le meilleur moyen consisterait quelquefois à marcher carrément sur la difficulté. Un grand coup de ciseau dans les liens, et ce serait fini. » Quelle image énergique! J'applique aussitôt cette idée en me demandant pourquoi vous ne l'exécutez pas. Vous êtes surprenant avec vos applications immédiates. Parlais-je d'un cas spécial? Non, non, vous n'avez rien dit de spécial, mais j'ai deviné l'année dernière une des causes qui change si singulièrement l'atmosphère du Bourdon, et j'en soupçonne quelques autres. Chercher un remède, ou mieux encore, à une position fausse, est œuvre de bon sens. Un remède suffit. Que voulez-vous dire par « ou mieux encore » C'est une façon de parler, mais quoi qu'il en coûte, trancher le mal dans sa racine est plus efficace que des remèdes même énergiques. Voilà un naïf aphorisme qui n'est pas précisément inconnu, dis-je en me levant. Moquez-vous, il n'importe si j'ai poussé la roue. Vous permettez que je vous accompagne ? Nous revînmes au Bourdon en devisant, et lorsqu'il me laissa à l'orée de la futaie, une foule d'idées qui se précisaient voletaient dans mon imagination. N'avait-on pas vu souvent semblables unions parfaitement heureuses ? Il était bien sympathique, ce Lafade, avec son esprit pénétrant et son cœur jeune. Je savais sur lui, par une amie qui habitait la ville où il avait été préfet et que j'avais questionné dans mes lettres, des traits honorables ou spirituels que je m'étais plus à raconter devant mes cousins. Geoffroy avait seulement répondu « On sait bien que Lafade est un homme absolument estimable. Il chasse de race, du reste. Son père, que vous avez connu, Pauline, était un savant aussi distingué qu'honorable, et sa mère était pétrie de fines qualités. » Mais Manette me questionna. Elle le fit avec une certaine insistance, et dans le moment, sans trop analyser mon impression, je fus satisfaite d'avoir attiré son attention sur les traits qui honoraient grandement notre ami. Le hasard me servit pour exécuter à la lettre la résolution à laquelle, en écoutant M. Lafade, je venais de m'arrêter, car je rencontrais ma cousine. D'un air triste et découragé, elle flânait sous les arbres, regardant distraitement les jeunes pousses qui commençaient à foisonner, malgré le froid encore vif. Bientôt, la nature s'épanouirait sous un chaud soleil réconfortant, et près de moi, deux pauvres cœurs se rongeaient sans que je fisse rien pour les soulager. Il fallait parler. Je passai mon bras sous celui de Manette et lui dis affectueusement « Ma chère enfant, votre situation douloureuse et absurde, passez-moi le mot, ne peut pas, ne doit pas se prolonger. Vous voyez la tristesse de mon cousin, vous souffrez du changement de son caractère. Cherchons ensemble un remède qui vous rende, à tous les deux, la bonne santé morale. » Ah, si je pouvais m'ouvrir à mon père sans lui causer la peine dont vous me parliez! Que lui diriez-vous? Elle dégagea son bras et me prit les deux mains en disant d'un ton suppliant « Vous m'aiderez, madame, vous m'aiderez. Vous avez raison, il faut en finir. Dites que vous m'aiderez. » Elle serrait mes mains d'une façon si juvénile que je me hâtai de les retirer et de me remettre en marche. « Calmez-vous et causons paisiblement. Je reviens à ma question. Que diriez-vous à votre père ?»« Vous parliez de remède, me dit-elle simplement. » À mon sens, ce remède est à notre portée. Débarrassons-nous du rubis, qui sera perpétuellement pour mon père et moi une cause de souffrance. Perpétuellement, c'est être bien affirmative, Manette. Vos idées peuvent se modifier. Je ne le crois pas, madame, dit-elle d'un ton inquiet, car j'avais l'air de m'échapper. Et comment s'en débarrasser? En le donnant. Elle m'observait pour constater que je saisissais son idée à demi-mot, mais je ne saisissais rien du tout. « Le donner ? Quelle folie, Manette ! Quand vous pourriez en profiter sans aucune indélicatesse, car vous-même admettez un jugement différent du vôtre. » « Chère cousine, me dit-elle timidement, ne discutons plus sur les exagérations de ma conscience, elles existent. Agissons en conséquence. Si donner le rubis est une folie, je crois cette folie plus sage que la sagesse. Pourquoi s'imposer une souffrance inutile? Le but que mon père se proposait est manqué, vous le voyez bien. Le donner à qui? À une œuvre? Non, le donner à M. Kerdulen, qui ne peut pas être heureux faute d'argent. » Le débiteur de son père sera censé lui faire une restitution. La réalisation de cette idée est facile par l'entremise d'un notaire. « N'ayez pas l'air si effaré, chère vieille cousine, » continua-t-elle, sans retenir un sourire, devant mon attitude évidemment comique. Manette avait parlé rapidement, en personne qui a bien préparé sa phrase pour se débarrasser plus vite de son idée. Quand, à moitié suffoqué, je pus parler, je m'écriai « Votre amie a-t-elle raison? Seriez-vous romanesque ?» Son regard attristé m'adressait des reproches qui m'allèrent au cœur et nous marchâmes quelque temps dans un profond silence. Jeter le rubis aux orties était déjà bien extraordinaire, mais le donner au capitaine, nous parvenions à un degré d'étrangeté qui ferait bondir Geoffroy. Enfin, je tins en bride de mes idées qui couraient affolées les unes après les autres. « Confiez-moi entièrement votre pensée, Manette, » dis-je, « ma première surprise est passée. » Elle reprit avec plus d'aplomb, car elle se sentait encouragée. « Vous rappelez-vous la dernière discussion chez les Falibert au sujet de la malheureuse publication ?»« Sans doute. » Vous rappelez-vous que, sauf moi, chacun se ralliait à l'avis que l'auteur de l'indiscrétion avait sa liberté d'action? Je me rappelle très bien. Je me souviens surtout que vous paraissiez poursuivre une idée en activant la discussion, vous qui évitiez toujours le sujet. Je voulais connaître la manière de voir de M. Kerdulen et de Cécile, acquérir la certitude que ni l'un ni l'autre ne trouvaient indélicate cette façon d'acquérir de l'argent. « Quoi, vous songiez déjà à l'étrange projet que vous me soumettez aujourd'hui ?»« Oui, je savais qu'il s'aimait et je connais M. de Falibert. Mais avant de m'obstiner dans mon idée, je devais d'une façon détournée connaître l'opinion du capitaine. »« Pourquoi donc ?»« Pourquoi, dit-elle hésitante, s'il avait jugé comme moi, pouvais-je le faire profiter à son insu d'un bien dont il eût réprouvé l'origine ?» Il y a là, je crois, un cas de conscience extrêmement délicat, n'est-ce pas votre avis? Si, mais c'est un peu le fin du fin, j'ignore si je serais allée jusque-là, répondis-je stupéfaite par le travail de cette jeune conscience. Et, intérieurement, j'admirais la jeunesse qui, n'ayant ramassé aucune scorie au bord des chemins, juge si bien les cas d'un clair regard. Enfin, reprit-elle d'un air toujours inquiet, cette question contingente, comme dirait mon père, ne se pose pas. Alors, si on voulait, tout serait simple. « Vous appelez simple ce tout ? » m'écriai-je. Manette avait tourné et retourné son idée solitairement, habitué son imagination à la méditer sous le jour qui lui convenait. Et sa raison ne voyait plus les difficultés de réalisation. Qui donc n'a pas connu ce genre de spéculation ? « Je compte sur vous, » me dit-elle avec un sourire câlin. « Vous irez à pas mesurés, vous observerez, vous verrez si les idées de mon père... » Elle s'arrêta, croyant à mon air que j'étais à bout de patience, mais elle se trompait. J'entrai dans le plan de parler à Geoffroy afin de sortir de l'impasse où nous avait conduit le rubis aux feux aveuglants. Mais parler n'est pas réussir et je me demandais comment pénétrer sur un terrain aussi mouvementé sans tomber au premier pas dans un ravin. Il semble que tout soit facile quand on n'est pas intéressé directement dans une question. Dans ma vie déjà si longue, j'avais souvent conseillé la marche directe, la parole sans embâge, critiqué si on ne suivait pas mon conseil. « Vous refusez ?» me dit Manette avec chagrin. « Non, je réfléchissais à nos inconséquences. » « Chère cousine, merci 100 fois. Comment voulez-vous que je parle directement à mon père? J'aurai l'air de le blâmer en face. Vous amortirez le choc et ensuite nous pourrons causer de sang-froid, papa et moi. D'ailleurs, je ne blâme pas, rappelez-vous. Je vois différemment et je comprends le sentiment des autres. Vous blâmez et il n'en saurait être autrement, Manette. Son geste vague et désolé essayait vainement de protester. Je rentre, dis-je, et parlerai immédiatement à Geoffroy. Nous enfilâmes au plus vite l'avenue, le vieux jardin où les lauriers-teints tout blancs fleurissaient au milieu des arbres verts à la note sombre, où bientôt refleuriraient les vieilles plantes parfumées, et moi qui, avant de partir pour le monde invisible, désirais ne plus connaître que les petites joies champêtres, j'étais bien servi, vraiment. Enfin, bien que très vieille, je ne reculais pas indéfiniment devant la nécessité d'une attaque et délibérément, aussitôt rentrée, j'allais frapper à la porte de Geoffroy pendant que Manette, avant de se sauver dans le salon, m'adressait des signes encourageants. Depuis mon arrivée au Bourdon, je me permettais pour la première fois la liberté grande de déranger Geoffroy. Excepté pendant les absences de M. Etel, et encore, la plupart du temps, il emportait avec lui la clé de son bureau, je n'étais entré chez lui que sur son invitation. Le sachant si jaloux de sa liberté, surtout de sa retraite, j'avais poussé la discrétion jusqu'à l'outrance. Aussi, lorsque je pénétrai dans le cabinet, il laissa percer son étonnement. « Vous, Pauline, qu'est-ce que c'est ?»« Uniquement le désir de causer avec vous, mon cher ami. » Et, avançant un siège, je m'assis avec un calme apparent, malgré un grand battement de cœur, croisai mes mains ridées et le regardai intelligemment d'un air stupide. « C'est important ?» demanda-t-il avec un coup d'œil significatif sur ses papiers. « Très important !» Il tourna son fauteuil de mon côté et attendit les oracles que mon air eût annoncés sans la stupidité qui m'étreignait. N'était-ce pas chose cruelle pour ce pauvre père, si heureux d'assurer l'avenir de sa fille, d'apprendre l'intransigeance qui infirmait, en somme, sa propre délicatesse, alors que, au fond, il était aussi Hermine que Manette? N'était-ce pas navrant pour lui cet anéantissement du modeste accomplissement d'un désir si ardent et si rationnel? Je me débattais donc dans le filet de mes pensées sans réussir à me dépêtrer. « Voyons, Pauline, qu'avez-vous? Si c'est une fâcheuse nouvelle, dites-la sans tarder. »« Je suis mal habile à m'en tirer, dis-je d'un ton assez piteux, mais brave tout de même. »« Il s'agit de Manette, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Alors parlez vite, cher ami. » »« Vous vous rappelez ma remarque sur l'atmosphère bizarre dans laquelle nous vivons ?» « Oh, très bien. Puis-je enfin vous en dire les causes sans réticence ?»« Ah, Manette vous a parlé. Racontez, j'écoute. » La retraite m'étant coupée, je n'hésitais plus et commençant à lui exposer mes propres soupçons sur les idées de ma cousine, j'arrivais à lui décrire parfaitement l'état d'esprit de sa fille, ses scrupules et son désir intense d'être bel et bien débarrassée du rubis. Jusque-là, Geoffroy, enfoncé dans son fauteuil, la tête appuyée sur sa main et les yeux baissés, écoutait dans une immobilité absolue, mais au dernier mot, il se redressa. Débarrassé du rubis, que veut-elle en faire? Sans attendre la réponse, il ajouta d'une voix irritée et pleine de tristesse. Ainsi, me voici parvenu au point que je redoutais. Ma fille m'accuse d'être indélicat. Jamais pareille pensée ne lui est venue, jamais. Elle ne supporterait même pas qu'on fît une telle allusion. Elle croit seulement que vous vous êtes trompé de bonne foi, comme je me suis trompé moi-même, puisque je vous approuvais. Elle admet très bien que le cas soit discutable, elle comprend que ni vous, ni moi, ni une foule de gens ne partagent pas son sentiment, mais elle ajoute que jamais, en ce qui la concerne, son sentiment ne changera. Vous palliez le mal. Non, j'exprime exactement la pensée de cet enfant. Après quoi, je me tus, laissant Geoffroy passer silencieusement par les phases d'une irritation et d'un chagrin qui se combattaient mutuellement, mais où le chagrin dominait. Pauline, vous avez dit tout à l'heure que moi-même j'approuvais. Vous n'approuvez donc plus ? En vérité, je n'en sais rien, mon cher ami. Je crois que les deux façons de juger peuvent se soutenir et que chacun a raison, puisque les avis de gens honorables sont si différents. Manette elle-même, je le répète, en convient. » Rien, je crois, n'était plus vrai, et Geoffroy fut atteint par ce raisonnement qui lui parut celui du bon sens. Mais la blessure faite par les blâmes de certains journalistes, non moins que par le blâme implicite de sa fille, demeurait au vif, parce que sa nature penchait vers les délicatesses de Manette et les raisons qui motivaient les critiques. « Si le fait en lui-même se discute et s'admet, me dit-il, je me suis cependant trompé en l'admettant, attendu que ni moi ni Manette ne sommes faits pour la moindre équivoque, je le vois clairement aujourd'hui. » Alors, répliquai-je enchanté, le dénouement de cet équivoque est facile, Manette avait raison. Ah, permettez, Pauline, quand les opinions sont une question d'appréciation personnelle et non d'honneur, il serait absurde de perdre l'argent qui assure l'avenir de ma fille. Ah, Dieu, qu'il était loin encore d'entrer dans la pensée de Manette. Eh bien, n'êtes-vous pas de cet avis, Pauline? Que pensez-vous? Parlez franchement. Je réfléchissais que l'année dernière, vous désiriez causer avec votre fille d'une affaire qui déjà vous troublait, Geoffroy. Le moment est arrivé de parler ensemble tranquillement et d'aviser aux meilleures mesures à prendre pour entrer dans un état moral normal. Aviser aux mesures à prendre, que voulez-vous dire? Partagez-vous les idées de Manette? Je ne partage rien, mais ne nous berçons pas d'illusions. Manette est touchée. Elle dissimulera, elle parviendra peut-être à surmonter en apparence sa tristesse, mais un petit ver rongeur la fera souffrir. Le front de Geoffroy se contracta et il commença à discuter. Vous parlez de mesures à prendre? Quelles mesures? Comment ferait-on? Ma foi, exaspérée, je me précipitai dans le danger. Manette voudrait donner le rubis, dis-je brusquement. À qui? À une œuvre? À Kerdulen, pour qu'il puisse épouser Cécile. À Kerdulen? Mais elle est folle! Appelez-la, appelez Manette, je veux lui parler à l'instant. Où est-elle? Dans le salon. J'y vais. Avant que j'eusse esquissé un mouvement pour le retenir, il était parti au pas accéléré et je le suivis de même. Manette n'attendit ni un mot ni un geste pour courir à son père, l'entourer de ses bras caressants et s'écrier « Cher père, vous connaissez mes idées. Pardonnez-moi si elles ne sont pas tout à fait les vôtres, mais elles me rendent bien malheureuse. » Et la voilà pleurer sur l'épaule de Geoffroy, dont l'irritation s'envola comme plume sous grand vent. Je vis le moment où il allait sangloter lui-même. Il embrassa vivement le joli visage en pleurs, fit asseoir sa fille près de lui, et quand il la vit de sang-froid, commença, avec un calme que j'admirais, « Ma pauvre enfant, je voulais, je veux encore sauver ton avenir. »« Je sais, oh, je sais bien, et je vous suis si reconnaissante d'avoir mis de côté pour moi vos propres répugnances. » La réponse n'était pas calculée, mais Manette ne pouvait rien dire de plus fin et de plus adroit. Elle donnait ainsi le beau rôle à son père et sous-entendait que, pensant exactement comme sa fille, il avait sacrifié ses idées à sa tendresse paternelle. Cependant, Geoffroy prit assez mal la réponse de Manette. « Où vois-tu mes répugnances ? » lui dit-il un peu sévèrement. « Je vous sais d'une discrétion exagérée. Je suis certaine que sans moi, sans mon avenir, vous n'auriez jamais songé à vendre ce manuscrit. Avouez-le, cher père. » « Mon Dieu, non, je n'y aurais jamais pensé. Un homme seul se tire toujours d'affaires et mes goûts sont simples. » « Je vous connais, dit-elle en l'embrassant, et nous nous entendons si bien sur tout. » « Pas toujours, comme tu le vois. C'eût été mon droit, sache-le bien, d'agir pour moi-même comme j'ai cru devoir agir pour toi. » « Cependant, continua-t-elle plus timidement, car le chemin devenait glissant, ne pourrait-on arranger les choses au mieux de nos idées réelles? Au fond, quel que soit votre droit en théorie, nous sommes du même avis. » « Arranger quoi? C'est fait. Je regrette que tu aies ignoré en temps voulu mes projets. Cette affaire te contrariant, je ne l'aurais pas conclue très probablement. À présent, il est trop tard. » Manette m'appela à son secours par un signe de détresse, mais je me gardais bien d'aller à la rescousse. Père et fille soutenaient une thèse différente avec d'excellentes raisons. Seulement, en prononçant le mot de théorie, Manette donnait à la question sa véritable physionomie, les sentiments de son père contredisant cette même théorie. Manette le sentait, et voyant que je ne bougeais pas, avec le courage des jeunes qui ne doutent de rien, elle exprima nettement la pensée qu'elle creusait depuis 8 mois. « En 2 mots, cher père, nos répugnances sont les mêmes, nous ne jouirons donc jamais du rubis. Je vous affirme que je serais 3 fois heureuse si je ne l'avais plus, sa provenance, à tort ou à raison, m'inspirant une antipathie que je ne surmonterai jamais. » J'attendais un éclat, mais Geoffroy voulait obliger sa fille à parler. « Que voudrais-tu, Manette? Explique-toi sans hésiter. Je ne me fâche pas, tu le vois bien. Je t'écoute avec une tranquillité qui n'est pas sans mérite. » « Vous êtes bon comme toujours. Quand une chose gêne, on s'en débarrasse, » ajouta-t-elle promptement. « Donnons cet argent qui sera pour nous une cause de malaise et d'ennui. » « Tu sais marcher en ligne droite, » dit-il avec un sourire. « Comment en disposerais-tu ? » De nouveau, elle se tourna vers moi. « Vous n'avez pas parlé de mon idée, madame ?»«
Si. »
Elle mit affectueusement sa main dans celle de Geoffroy, qui ne répondit pas à la muette interrogation de sa fille, dont l'air anxieux, caressant, était vraiment charmant et influençait mon cousin, bien qu'il n'en voulût rien laisser voir. « Nous avons débité beaucoup de sottises, » déclara-t-il. Et il nous planta là, au grand désespoir de Manette, qui, croyant tout obtenir au premier assaut, ressemblait à la statue de la déception.
« Tout est perdu !»«
Tout est gagné, » affirmai-je. « Geoffroy n'a prononcé aucun nom formel. Il discute en lui-même et il vous aime tendrement. Mais il ne peut accepter du premier coup des décisions aussi étranges. »